Jared Hariri, bonjour.
Bonjour.
Les statistiques locales montrent que 80% de la population centrafricaine pratique l'agriculture. Mais comment expliquez-vous cette insécurité alimentaire sans précédent que traverse le pays ces dernières années?
Je vous remercie. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai que 80% de la population centrafricaine pratique l'agriculture. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est l'agriculture rudimentaire. C'est l'agriculture, on va dire, familiale, où chacun va aller occuper un quart d'hectare, petite parcelle, d'accord? Il va planter un peu de manioc, un peu de maïs, un peu d'arachide, un peu de veke. C'est une agriculture d'autosuffisance, c'est pas une agriculture de développement.
Mais la République centrafricaine dispose de plus de 15 millions de terres arables avec une abondante pluviométrie estimée à plus de 1200 mm cubes par année. Comment vous pouvez justifier la faible production agricole en RCA en tant qu'acteur du secteur?
C'est vrai que c'est un paradoxe. Comment on peut aujourd'hui expliquer que, avec tout ce potentiel et tous ces avantages-là, et les 80% de la population qui pratique l'agriculture, on n'arrive même pas à subvenir à nos besoins? À mon humble avis, la première raison, c'est la semence. Vous êtes dans un pays, malheureusement, depuis 30 ans, on se repose juste sur ce que la FAO distribue. C'est pas normal.
Vous reprochez la politique agricole qui ne tient plus la route?
Là où on est, ce n'est plus une question de politique agricole ou pas. Malheureusement, vous savez, c'est facile toujours de dire c'est la faute du gouvernement. À mon avis, même le gouvernement n'a pas forcément la possibilité, si vous voulez, de changer les choses sans que toi, moi, X, Z, puissions aussi apporter notre part.
L'agriculteur, lui, il attend juste des orientations. Il a la disponibilité, sa volonté pour cultiver. Mais si les orientations, les projets ne sont pas mis à sa disposition, comment on peut contribuer?
Bon, je vois un joli tableau devant toi. D'accord? Et je vois que c'est des statistiques qui viennent du ministère de l'Agriculture. Bon, je vois 9 projets pour une enveloppe de presque 200 milliards. Je dis bien 200 milliards. Aujourd'hui, est-ce que ces projets-là, c'est le ministère qui les a conçus? Non, c'est des projets qui ont été imposés au pays. C'est comme la politique de la FAO. Aujourd'hui, par exemple, la FAO vous lance chaque année ce qu'ils appellent le lancement de leur campagne agricole. D'accord? Ils prennent des graines, les graines de maïs, les graines de... Bref, et ils vont les distribuer aux producteurs. Mais ce ne sont pas des semences.
Mais monsieur le DG, c'est le ministère de l'Agriculture qui pilote ce projet sur le terrain, c'est pas le FAO.
Ils pilotent, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas conçu le projet en lui-même, d'accord? Je parle parce que je sais de quoi je parle. Je suis au Conseil économique et social au nom du ministère de l'Agriculture et j'ai accès à certaines informations peut-être qui manquent au grand public. Aujourd'hui, malheureusement, ces projets nous ont été imposés. Prenez l'exemple du projet PAPE. Une enveloppe de plus de 70 milliards, d'accord? Et dans ce projet-là, lorsque vous lisez le projet, la conception du projet, c'est un projet magnifique. Il ne pouvait que réussir. Malheureusement, dans la mise en exécution, ceux qui exécutent, c'est qui? C'est ceux-là qu'on appelle experts internationaux, les grands ingénieurs qui viennent d'ailleurs.
Mais monsieur le directeur général, c'est l'État qui doit demander ce qu'il veut pour le développement de l'agriculture afin de promouvoir l'autosuffisance alimentaire pour son peuple. C'est pas aux partenaires de s'imposer?
Non, mais malheureusement, vous savez, il ne faut pas oublier aussi que c'est un pays qui sort d'une longue crise qui dure depuis des décennies. Depuis les crises des coups d'État, les crises de l'insécurité que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui, on va dire ça a duré 30 ans. Durant ces 30 ans, on nous a malheureusement habitués à ce qu'on appelle l'aide alimentaire. Et comme on a toujours l'habitude de le dire, l'aide alimentaire ne fait que inculper dans nos cerveaux la mentalité de l'assister. Donc du coup, durant ces 30 ans ou 35 ans, les producteurs centrafricains, la population en général, surtout ceux qui sont dans l'arrière-pays, sont devenus des personnes vulnérables et assistées.
Est-ce que ce n'est pas une question de gestion, puisque vous-même, votre société Palme d'Or a déboursé 10 milliards pour cultiver aujourd'hui 3500 hectares de palmeraies? Ça, ce n'est pas du concret? Comment 205 milliards avec 9 grands projets n'arrivent pas à résoudre le problème de la crise alimentaire en RCA?
La plupart de ces projets qui interviennent dans le pays, il n'y a pas que maintenant. On parle de maintenant 9 projets. Mais bien avant ça, il y a eu plein de projets. Mais comme on n'associe jamais le secteur privé. Quand tu vois le projet, on te dit par exemple que dans le projet là, il y a 1 milliard. Mais les 1 milliard ne seront pas dépensés directement pour aller développer l'agriculture. Parce que tu as au moins 50% du budget, ça va aller chez les soi-disant consultants internationaux. Tu as au moins 20% qui vont aller dans les frais de mission, dans les voyages, dans les ateliers de je ne sais pas quoi, tantôt sensibilisation. Ça dit, ils ont des termes, ils ont des gros mots en français là, que nous-mêmes là, on ne comprend pas. Tu as 7-8% du budget qui vont souvent dans les hauts communications, aide à je sais pas quoi. Et donc, du coup, à la fin, il va rester peut-être 1 ou 2% qui vont aller réellement dans l'agriculture. Et malheureusement, même ces 1-2% restantes là qui vont dans l'agriculture, mais la plupart du temps, c'est à travers soit des petits outillages agricoles, soit des brouettes. Donc, l'objectif, hein, parce que pour moi, je ne raisonne pas politique, hein. Je parle économiquement. La société Palme d'Or, c'est vrai que 3500 hectares, plus de 600 emplois aujourd'hui en permanence. C'est un projet structurant. Donc aujourd'hui, dans 30 ans, dans 50 ans, la plantation de Palme d'Or restera là où elle est. Elle va continuer toujours à créer ses emplois directs et indirects. Elle va toujours contribuer à stabiliser le marché de l'huile, un produit de première nécessité, d'accord, avec 10 milliards, parce que c'est le privé qui l'a fait. La seule chose que je reproche au gouvernement dans l'intervention de ces projets, c'est qu'on n'associe jamais le secteur privé.
Selon la Banque mondiale, seulement 1% d'agriculteurs centrafricains peut investir dans le secteur agricole avec un tracteur ou un motoculteur. Qu'est-ce qui freine la mécanisation de l'agriculture en RC?
Bon, il y a plusieurs aspects. Hein. Tout d'abord, c'est la présence de ces soi-disant partenaires au développement. Parce qu'aujourd'hui, hein, c'est simple. Lorsque vous prenez ce qui se passe sur la filière maïs, dans la Kémo, vous avez la FAO qui vous distribue aujourd'hui des graines, d'accord? Des graines, je dis bien des graines, pas des semences, des graines. Il y a une grande différence.
Quelle différence?
Mais comment? Lorsque vous donnez à quelqu'un des graines de maïs, la personne va aller s'aimer. La personne va travailler pendant 3-4 mois. Lorsque la personne va aller récolter, il va sortir avec 400 kilos à l'hectare seulement, 400 kilos. Alors que si c'était des semences, la personne pouvait produire jusqu'à 3000 à 4000 kilos à l'hectare. Vous voyez la différence? Déjà fois 10. Maintenant, qu'est-ce que la FAO fait? Lorsqu'ils vous distribuent ces graines-là, ils savent, parce que c'est tout un processus, c'est un plan. C'est un plan de nous maintenir toujours dans le besoin, dans l'assistanat, dans la pauvreté. Vous distribuez des graines de maïs à un agriculteur. Il va les semer et il va sortir avec 400 kilos l'hectare. Vous revenez quelque temps après pour dire non, pour éviter que la personne là rentre dans l'insécurité alimentaire et bon, on va lui acheter ces graines de maïs qu'il a produit à 300 francs le kilo. C'est ce qu'ils font, hein? Donc vous achetez 400 kilos à 300 francs, ça fait 120 000 à l'hectare pour la personne qui a travaillé pendant 4 mois. D'accord? Vous lui donnez ces 120 000 tout en sachant que les 120 000 là, ne vont même pas lui suffire d'envoyer ses enfants à l'école, de vivre dignement, de se soigner, de manger les 3 fois par jour. Impossible. La Banque mondiale dit que c'est seulement 1%. Mais c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence déloyale. Lorsque vous avez des ONG internationales à qui on donne des agréments, ils sont tous devenus des importateurs de farine, des importateurs d'huile, des importateurs de tout. Ils importent de tout et ils revendent sur le marché. Mais comment voulez-vous aujourd'hui que le secteur privé puisse se développer? Le secteur privé n'a pas accès au financement. On vient de le dire. Vous avez 9 projets seulement pour 220 milliards de subventions. Hein? La plupart, c'est des subventions. Donc, c'est de l'argent gratuit que les gens sont en train de s'amuser à dépenser. Et toi, maintenant, privé, demain, tu as le courage. Tu mets un projet en place et tu veux aller demander un prêt bancaire. Qui va te donner ça? Aujourd'hui, les banques ne peuvent même pas accompagner des promoteurs agricoles. Si demain, vous, vous décidez d'investir dans l'agriculture, vous avez, on va dire, un projet de 50 millions, 60 millions. Vous allez dans la banque. Mais la banque va vous demander de présenter des garanties à hauteur du projet. Ça veut dire, si moi, j'ai besoin que la banque me prête 10 millions, il faut que je parte à la banque avec des garanties à hauteur de 10 millions. Mais si j'avais déjà ces 10 millions, est-ce que j'allais partir à la banque? J'allais pas partir à la banque.
Nous voulons savoir cet aspect du manuel. Aliments de base, où aujourd'hui on n'arrive pas à couvrir le besoin pour l'autoconsommation à Bangui. La RDC nous ravitaille à 60%. Est-ce que c'est possible?
En Centrafrique, nous avons des rendements de 1,5 tonne de tubercules de manioc à l'hectare. Alors que dans des pays comme le Cameroun, ils arrivent à produire des fois jusqu'à 40 tonnes de tubercules à l'hectare. Nous ici, c'est parce que les tubercules de manioc sont malades. Et c'est depuis 30 ans que les cultivateurs plantent toujours les mêmes tubercules. Parce que depuis des années, on n'a pas introduit de nouvelles variétés dans le pays.
Pour sortir de l'ornière, quelle proposition vous faites aux partenaires et au gouvernement?
Vous créez une banque agricole pour faciliter l'accès au crédit ou l'accès au financement à tous ces promoteurs centrafricains qui ont la volonté, mais qui n'ont pas les moyens d'investir, d'accord? Ou bien vos projets-là, au lieu de continuer à nous inonder avec les V8, avec les Hilux double cabine, partout dans les ministères là. Vous voyez des fois des Hilux qui n'ont même pas 3 mois ou 6 mois d'âge. Ils vont garer pour un problème de filtre à gasoil, pour un problème de filtre à huile. La voiture est partie, ça va se détérioriser, puis on la perd. Au lieu d'acheter 10 Prado, 10 V8, achetez 2 tracteurs à la place. Vous prenez l'exemple du projet Paper. Ils sont partis, soi-disant, ils ont conçu des sièges pour les coopératives dans les villages là-bas. Lorsque vous voyez les coûts de construction, on parle de 300 millions, 400 millions, alors que normalement, moi, hein, secteur privé, ce qu'ils ont fait à 300 millions, moi, je peux le faire avec 2-3 millions. Prenez seulement 20 milliards dans les 220 milliards. Gardez les 200 milliards là chez vous. Prenez seulement 20 milliards. Vous mettez dans une banque agricole ici. Vous ouvrez cette banque-là pour que tout Centrafricain ayant un petit projet agricole aille dans cette banque, s'adresser à la banque et avoir un petit crédit là. Je vous jure qu'en 3-4 ans, on va éradiquer l'insécurité alimentaire et on peut aller vers une autosuffisance alimentaire et pourquoi pas commencer à envisager même des exportations dans la sous-région.
Monsieur Red Hariri, merci.
Ah, c'est à moi de vous remercier.